Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
France Culture consacre une partie de sa programmation au Japon en cette fin de semaine. Et Jacques, vous débutez l'exercice ce matin. Votre journal des idées s'intéresse au pays du soleil levant où la nuit est paradoxalement une affaire éminemment sociale.
Et oui. Alors, est-ce un effet du dépaysement garanti et de l'exotisme de sa culture? Le récit du séjour au Japon est en passe de devenir un genre à part entière, Clara. Une résidente de longue date, Amy Chavez, s'en agace dans The Japan Times vu la médiocrité de la production. L'article publié sur le site de Courrier International s'en prend au poncif véhiculé par ses ouvrages superficiels, écrits le plus souvent au terme d'un séjour n'excédant pas une année. À quelques exceptions près, c'est la culture pop, les toilettes qui chantent, les inventions folles, le niveau à leurs yeux uniformément absurde de politesse et les règles de comportement en public qu'on retrouve d'un livre à l'autre. Pourquoi ne pas laisser les experts s'occuper du sujet, demande l'auteur du guide d'Amy sur le meilleur comportement à adopter au Japon. L'anthropologue Laurence Caillé a mené une grande partie de sa recherche au Japon. Elle publie à la Société d'Ethnologie un ouvrage intitulé « Démons et merveilles » consacré aux nuits japonaises. Tout nous parle de nuit, car nous sommes au Japon, résume-t-elle, que l'on consulte les astrologues, que l'on s'endorme dans le métro, que s'entrouvre la terre, qui laisse passer démons, esprits en colère ou fantômes délicieux, que s'allument les lanternes ou que brillent les lucioles, les frontières entre la nuit et le jour s'estompent et le monde des morts n'est séparé de celui des vivants que par un seul pont. La nuit est le domaine d'origine de principes de vie collective, notamment les règles d'apprentissage d'un sommeil extrêmement socialisé. La société japonaise est une société à maison. Lévi-Strauss définissait ainsi cette structure de base, la maison, une personne morale détentrice d'un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels qui se perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne réelle ou fictive, tenue pour légitime à la seule condition qu'elle puisse s'exprimer dans le langage de la parenté ou de l'alliance et le plus souvent des deux ensemble. Au Japon, il est fréquent que trois générations cohabitent dans la même maison, ce qui fait de la nuit un espace partagé notamment par les parents et les enfants. Le sommeil solitaire est associé à la tristesse, ajoute Laurence Caillé, qui évoque les études des hygiénistes de la fin du 19e siècle pour encadrer les pratiques du sommeil. La sieste sur le ventre est préconisée, une spécialité préconisée donc pour éviter les abus au travail ainsi que les sommes dans les transports en commun. Ruth Benedict raconte même dans Le Chrysanthème et le Sabre qu'elle a vu des hommes dormir en marchant. Les micro-siestes sont parées de toutes les vertus, elles rendraient plus intelligents et innovants, et l'adoption de la polyphasie renverrait à un mode de sommeil antérieur à la colonisation du sommeil par la nuit, fruit de la modernité venue d'Occident. Dans ces conditions, dans des conditions d'intimité réduite, la vie sexuelle est à la fois libre et compliquée. Attendre que les enfants soient endormis et faire l'acquisition d'un French bed pour accueillir les ébats, de préférence aux rigides futons. La France étant connue au Japon comme le lieu par excellence des relations amoureuses, une literie d'un type nouveau s'est vue estampillée furansu. Et pour les hommes seuls, le quartier des plaisirs est ouvert H24. Laurence Caillé revient sur l'histoire du Yoshiwara, où se retrouvaient notamment les célibataires de l'exode rural. Là, l'origine sociale était effacée et un roturier suffisamment argenté était traité à l'égal d'un samouraï. Aujourd'hui, le quartier ressemble à d'autres faubourgs du Tokyo moderne, si ce n'est la permanence de lieux dévolus au plaisir. Et comme autrefois, d'opiniâtres défenseurs du Asané, le somme du matin, oppose une résistance passive mais constante aux injonctions du new management. Les partisans de l'inemuri, l'art de dormir en étant présent, revendiquent désormais le droit de sursoir à l'obligation de se lever avant l'heure du tigre, identifiable aux couleurs du ciel bleu et rouge, en traînant tout ou partie de la nuit dans ces temples de la consommation que sont les immenses malls construits en sous-sol ou les combini qui ouvrent 24 heures sur 24 à la campagne comme en ville, mettant en scène une sorte de jour dans la nuit. Autre lieu fréquenté la nuit, autre genre de délice, le gigantesque marché aux poissons de Tsukiji, qui a fermé ses portes ce mois-ci pour déménager dans un site flambant neuf de la baie de Tokyo. C'est toute une époque qui tourne la page, comme le rappelle dans le monde.fr le géographe Gilles Fumet. Toute la passion et la fascination japonaise pour la mer se concentrent à Tsukiji, co-auteur avec Joji Nozawa et Frédéric Georgens de Tsukiji, le marché aux poissons de Tokyo. Il rappelle que chaque jour, près de 2000 tonnes de produits de la mer et 450 variétés de poissons s'y échangent. Tokyo est une mégalopole très singulière en ce qu'elle n'a pas de monuments à visiter, hormis les temples. Tsukiji est finalement l'un des seuls monuments de la ville, un haut lieu touristique au Japon. L'activité de prédilection des visiteurs, les ventes aux enchères de thon qui démarrent à 5h30. Il faut arriver vers 2h du matin pour faire partie des 120 personnes autorisées quotidiennement à le suivre. Alors, comme le raconte Camille Labron, on peut assister à des scènes dignes du théâtre Tabuki, ce que Rostropovitch appelait l'opéra japonais, où les vendeurs énoncent les enchères en un chant envoûtant. Un millier de thons, frais et congelés, sont ainsi négociés tous les matins pour plusieurs dizaines de milliers d'euros la pièce.